J'allais dire, Thierry Jousse, que c'est une scène clé du film, mais c'est un film dont on a l'impression qu'il n'y a absolument que des scènes clés et que tout est important. Scène dans la traduction française, dans le doublage français, qui ne rend pas tout à fait justice au jeu des deux acteurs, enfin qui n'est quand même pas mauvaise. Qu'est-ce que vous y voyez, vous, dans cette scène du pétard ?
Sans doute que le pétard n'est pas étranger au fait qu'on s'envole ailleurs.
C'est une autre dimension là dans laquelle on entre.
C'est une dimension. Enfin, on est sur cette question du fantasme. C'est drôle d'ailleurs parce que le film attaque sur quelque chose qui est au fond une question que tous les couples peuvent ou éventuellement se poser. Qu'est-ce que l'autre, sur quoi l'autre. Enfin bon, il part quand même de quelque chose de très commun au bon sens du terme, c'est-à-dire qui concerne à peu près tout, en tout cas toutes l'hétérosexualité, probablement l'homosexualité également, pour aller vers quelque chose qui de toute façon finit par être quand même plus mystérieux, parce que cette façon qu'elle a de raconter cette histoire, dont on ne sait pas si elle est entièrement réelle ou pas, enfin de toute façon elle finit par déboucher sur des images de fantasmes que Tom Cruise va ensuite avoir, enfin voilà, il y a quelque chose, puis elle fait écho aussi, elle anticipe aussi une deuxième séquence qui arrive beaucoup plus tard où elle se réveille d'un cauchemar ou d'un rêve, enfin on ne sait pas exactement, parce que c'est d'ailleurs assez drôle cette scène parce qu'elle rit, Tom Cruise est en train de rentrer de sa soirée, voilà, de sa nuit, je crois que c'est à ce moment-là,
oui,
et elle rit, et il parle de cauchemar, donc on comprend pas tout de suite, on se dit tiens, il y a un souci, et en fait elle va incarner d'une certaine manière ce fantasme à travers ce rêve, mais au fond moi ce qui m'intéresse c'est elle est dans le rêve, enfin elle ne fait que parler de ses rêves ou de ses fantasmes, mais finalement lui qui ne passe jamais à l'acte, parce qu'il y a aucun passage à l'acte dans le film. Quand même. Mm-hmm. C'est un film.
Il y a beaucoup de tentatives de passage à l'acte, mais il n'y a jamais de passage à l'acte.
En fait, sur le fait que c'est différé ou que c'est empêché, il y a un côté Buñuel d'une certaine manière presque dans cette façon de différer en permanence ce passage à l'acte qui n'aura jamais lieu. Le film se termine quand même sur le dernier mot du film, c'est fuck.
C'est elle qui le prononce d'ailleurs.
C'est elle qui le prononce.
Elle qui est allée le moins loin finalement dans le passage à l'acte puisqu'elle est restée dans le rêve. Et pourtant, on a l'impression que c'est elle qui est la plus affectée, quasiment.
Oui, elle est plus radicale que lui. Lui est beaucoup plus... même si elle ne reste que dans ce fantasme et dans cette projection, d'une certaine façon, je trouve que cette peinture du désir féminin, enfin, en tout cas, telle que Kubrick le montre, est un désir beaucoup plus radical, beaucoup plus affirmé, beaucoup plus puissant. L'homme, c'est pas un film très confortable pour la masculinité, pour la virilité, parce qu'au fond, Tom Cruise est un peu un... Il est à la limite du bonnet. D'ailleurs, c'est marrant, ça fait partie des malentendus sur le film, parce que quand même le film enjambe de manière très libre toutes les années 60-70, c'est-à-dire la question de la liberté sexuelle, enfin supposée, ça n'existe pas dans le film. On est dans un espace où le mariage est très codé d'une certaine façon.
Alors justement, dernière question, on a failli d'y répondre tout à l'heure, est-ce que c'est un film puritain ?
Je crois pas que ce soit un film puritain, je crois que c'est un film qui utilise les ressorts du puritanisme et qui les observe, qui en fait matière à fiction, à fantasme, à projection, mais je pense pas que ce soit un film considéré comme puritain. D'une toute façon, pour qu'une fiction une des raisons pour lesquelles une fiction fonctionne, c'est quand il y a des interdits, quand il y a des règles strictes qu'on peut transgresser ou pas. Enfin bon, donc je pense que Kubrick, il s'en fiche totalement de cette question de la liberté sexuelle. Ce qui l'intéresse, mais c'est ce qui rend le film aussi étrange et un peu décalé par rapport à son époque, parce qu'encore une fois, je reviens à ce que je disais au début, le film pourrait tout aussi bien se passer dans les années 30 ou dans les années 50, et en particulier dans les années 50, ça ne changerait pas grand-chose au fond, c'est-à-dire il y a cette idée du couple, mais il vise peut-être à quelque chose de plus intemporel, je ne sais pas si tant est qu'on puisse être intemporel sur ces sujets-là, je pense qu'il ne croit pas, que Kubrick ne croit pas fondamentalement à l'évolution des mœurs, je pense j'ai le sentiment qu'il croit qu'au fond, les choses ne bougent pas tant que ça sur ces questions-là. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, il rejoint aussi quelqu'un comme Antonioni qui trouvait qu'on était très en retard sur la question des sentiments par rapport à l'évolution technologique.
Et c'est là qu'on se rend compte que Kubrick ne parle jamais que de l'humanité avec un grand H. Merci beaucoup Thierry Jousse. rappelle que votre livre « Pendant les travaux, le cinéma reste ouvert » dans lequel vous évoquez notamment « Eyes Wide Shut » a paru aux éditions des Cahiers du cinéma. On vous retrouve également sur France Musique avec votre émission Ciné Tempo. C'est le samedi à 13h.